de Québec et Lévis. Marceau,
le matin. 6h45 minutes, Max. Quoi ça ressemble sur la route présentement?
Ça a commencé de bonne heure à matin pour ce qui est des complications dans le secteur des ponts et ça ne fait malheureusement que s'empirer. Puis encore, j'ai pas d'informations à savoir, y a-tu accident, y a-tu une panne, c'est-tu la fermeture du pont de Québec jusqu'aux petites heures ce matin qui a fait que ça a commencé plus de bonne heure puis que là, ça s'est juste amplifié. Je sais pas, dans tous les cas, là, déjà bien jamais pour ce qui est des deux ponts. Sinon, Capitale Ouest, ça commence tranquillement à ralentir dans le coin de rue Seigneurial.
Merci beaucoup. Marc-André Leclerc, chroniqueur politique et vice-président chez National, est là avec nous ce matin. Salut Marc-André, bon début de semaine.
Bonjour, bon lundi.
Qu'est-ce qui se passe avec la première ministre du Québec? Elle est en train de se faire une campagne politique puis augmenter dans les sondages avec l'argent du peuple. Elle est en train de dépenser tout notre argent. Puis le ministre des Finances dit « Ben, c'est pas si grave que ça. On a une meilleure année qu'on pensait. Là, on avait une enveloppe de 250 millions de dollars dans le dernier budget qui avait été prévu pour permettre à la première ministre de réaliser certains engagements. Mais là, déjà avec les annonces qu'on a, là, on a 140 millions pour rembourser la taxe de bienvenue, 22 millions pour l'aide aux soins à domicile, 30 millions pour réduire l'impôt des PME. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va réduire sur certains produits, la TVQ en épicerie. Là, ça, c'est 100 millions. Et on prévoit deux autres annonces aujourd'hui qui devraient ajouter de nouvelles dépenses aux 292 millions qui sont déjà connus. Elle est en train de se faire une campagne politique avec notre argent, Marc-André?
Oui, bien, c'est sûr que... Bon, il y a plusieurs choses là-dedans, Yannick, là, tout d'abord. Premièrement, on parle beaucoup de l'enveloppe de 250 millions qui était annoncée le 25 mars dernier dans le budget. Cette enveloppe-là, là, est virtuelle un peu, là. Parce que pour l'année en cours...
Elle est surtout sur la carte de crédit, là.
Exactement. C'est exactement là que je m'en vais. C'est parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on a déposé un budget durant la course à la chefferie. Dans le dit budget, M. Girard a dit « J'ai gardé une cagnotte de 250 millions par année pour la prochaine personne qui va remplacer François Legault. » Cette personne-là, on le connaît depuis le 12 avril, c'est Christine Fréchette. Mais le 250 millions, on ne l'avait pas parce que, puis on ne l'a pas parce que sur l'exercice en cours, l'année 26-27, on annonce un déficit de 8,6 milliards. Donc, le 250 millions, c'est un chiffre comptable. Sans doute que M. Girard a mis ce chiffre-là, sachant qu'il est très soucieux de ne pas être décoté une nouvelle fois par une autre agence de cotation, ce qui fait en sorte qu'il a dit à 250 millions, t'as moins 8,6 milliards, on va revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 4 ans, on va être correct. Mais Mme Fréchette, elle, une fois qu'elle est élue, elle est souveraine. Elle peut bien dire le 8,6 milliards, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un déficit de 10,6. Après ça, on verra l'impact que ça a sur les investissements, sur les intérêts, sur la dette, sur également les agences de cotation qui auraient peut-être intérêt à nous décoter à nouveau. Mais Mme Fréchette a fait ce qu'elle veut. Après ça, ben là, ça se peut que son ministre des Finances n'est pas content ou, comme le 2 mai, il envoie un courriel en disant « Ah, il faut faire attention, les Québécois savent compter. » Mais à la fin, que ce soit 250, 275 ou 300 millions, cet argent-là, on ne l'a pas.
OK. Donc, il n'y a rien qui empêche la première ministre actuellement de se faire une campagne politique avec l'argent du monde?
Non. Mais non. C'est elle. Le 250 millions, c'est théorique. C'est purement théorique. Après ça, puis ça, M. Girard, il le dit, il l'avait dit dans les derniers jours, il le redit ce matin là, en entrevue à Radio-Canada, que entre le 25 mars et aujourd'hui, à cause de la situation mondiale, probablement à cause du prix à la pompe, tout ça, ben il risque d'avoir plus de revenus. Également, il parle de certains transferts avec le fédéral qui devraient être plus élevés. Fait que peut-être sa marge de manœuvre pour rester un déficit de 8,6 milliards, elle est là. Fait que Mme Fréchette va pouvoir sans doute dépenser plus que 250 millions par année. Samedi matin, j'étais là, moi, à Lévis. J'étais allé faire un tour. J'étais allé éconifler en bon québécois à Lévis, au Conseil général. Puis c'est sûr que l'histoire qui est sortie de Radio-Canada sur Le fameux courriel du 2 mai que M. Girard dit lumière jaune, faites attention, Mme Fréchette, les Québécois savent compter, puis il ne faut pas dépasser. C'est sûr que c'était, comme on dit, the talk of the town. Là. Il y avait ça, puis le CH. Là. Et en coulisses, c'est sûr que l'entourage de Mme Fréchette, son entourage n'était pas très, 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 très heureux d'avoir ce petite bombe-là un matin de conseil général, là.
Est-ce qu'elle a énergisé ses troupes en fin de semaine à Lévis?
Oui, non, ça c'est clair. Les gens étaient de bonne humeur. Bon, il y avait le match du Canadien, on connaît la défaite en prolongation. Il y avait l'anticipation du match du Canadien, également les bons sondages, des sondages meilleurs au cours de la semaine, celui de Léger. Donc, c'est sûr que ça replaçait les choses dans le bon sens. Cependant, c'est un peu spécial parce que c'est un conseil général, mais à saveur très préparation électorale. Il y avait des ateliers, tout ça à huis clos, communication, finance, organisation sur le terrain. Ce qui est normal à ce moment-ci, là, on était à 133 jours hein, du vote. Fait que c'est normal qu'en fin de semaine, samedi à 135 jours du vote, ben, qu'on soit à ce niveau-là de préparation. Cependant, tu fais de la préparation électorale, c'est un peu spécial parce que il n'y avait pas non plus de nouveaux candidats, de nouvelles équipes. Fait que dans le fond, ils ont préparé les députés qui se représentent. Fait que c'est sûr qu'il y a des députés qui ne se représentent pas. Il y en a certains qui étaient soit pas là ou que j'ai vu arriver beaucoup plus tard dans la journée, disons.
Ouais, là, il reste quelques jours pour dire si on revient ou si on
Oui,
part.
d'ici la fin du mois, oui.
OK. Exactement. Tu le vois comment cet appel-là, justement, de Brigitte Legault, la DG du parti, de dire, hey, là, il vous reste une semaine parce qu'il faut se mettre en branle, parce que dans les faits, la CAQ est en retard là, sur le PLQ et le PQ dans la nomination de candidats.
Oui, ils sont en retard, ça c'est sûr. Bon, c'est normal qu'ils veulent, tu veux prioriser de gouverner, de remonter dans les sondages avant d'aller recruter des gens. Ça recrute mieux, ça organise toujours mieux quand les sondages sont bons. Là, au moins, on s'est remis, puis c'est ce que certains organisateurs de la CAQ me disaient samedi, au moins, on s'est remis pour être compétitif, là. Donc, il devait passer par là. Cependant, avec le nombre de semaines qui restent avant le vote, ils n'auront pas le choix d'aller de l'avant puis de présenter des candidatures. Et c'est pour ça le message de Brigitte Legault, je le comprends, pour avoir joué dans ce film-là, mais à un moment donné, ça veut dire qu'à l'interne, il y en a qui se sont peut-être pas branchés, qui oublient encore, ben, il faut avancer, là. Il faut que tu tournes à la. Puis il y a des députés, ministres qui m'ont dit qu'ils allaient s'annoncer cette semaine. Là. Puis avec un sourire en coin, fait que j'imagine que ces gens-là vont annoncer qu'ils se représentent.
OK. Éric Duhaime qui se présenterait dans Bellechasse, c'est pas un peu particulier de se parachuter dans un secteur où on voit que les sondages sont très favorables. J'aurais apprécié qu'Éric Duhaime soit dans un endroit où il habite.
Ouais, ben ça, c'est le fameux débat, Yannick. Est-ce qu'on représente où est-ce qu'on habite ou tu te présentes où tu te présentes où tu peux gagner? Et dans son cas, M. Duhaime, il n'a pas le choix de prendre une circonscription qui est prenable. Il ne peut pas se permettre de prendre une circonscription où ce qu'il habite ou où ce qu'il y a un pied à terre ou un chalet ou peu importe. Là, l'important pour lui, c'est de remporter. Peut-être que M. Duhaime, s'il avait choisi, bon, avec bien des si, on va à Paris, là, mais si M. Duhaime avait choisi, mettons, une circonscription en Beauce, donc à partir de ce moment-là, peut-être qu'il serait élu aujourd'hui. On ne sait pas comment ça aurait tourné. C'est facile de faire ça à partir de ce moment-là, à ce moment-ci, mais. Moi, je comprends son calcul. Je pense que c'est une bonne circonscription pour lui. Puis, pour son avenir politique, il n'a pas le choix de choisir une circonscription comme celle de Bellechasse. Également, pour lui, ça passe ou ça casse. Il n'a pas le choix de rentrer, lui et quelques autres personnes, mais il n'a pas le choix au moins de lui rentrer à l'Assemblée nationale. S'il ne rentre pas là, c'est terminé, là. Il sera plus chef du PCQ au lendemain de l'élection. Peut-être que le soir même, il va annoncer qu'il s'en va. Fait que pour lui, c'est un choix qui est important et il devait prendre une circonscription qui lui donne au moins cette chance-là et de l'expliquer aux gens. Puis on va voir, on dit que l'annonce va être mercredi, de dire ben, pourquoi j'ai choisi Bellechasse. Puis pour lui, c'est sans doute de dire ben, l'importance d'avoir une voix conservatrice à l'Assemblée nationale.
Mais pourtant, son château fort, c'est Québec. Là. C'est Québec. Là. Bellechasse, on est dans la région de Québec éloignée. Là.
Ouais. Ouais, ouais, ben, si on, oui, mais moi, je pense que si on regarde, mettons, si on regarde, exemple, là, la carte électorale fédérale, quand on regarde des châteaux forts conservateurs, là, lorsqu'on regarde également la vague orange en 2011, quels sont les comtés conservateurs qui ont tenu au Québec? C'est ceux de la Rive-Sud. Il y avait 4 députés de la Rive-Sud, puis il y avait Denis Lebel au Lac-Saint-Jean.
Exact.
Il y avait 5 députés conservateurs et M. Harper qui a été élu majoritaire en mai 2011. Donc, les calculs sont là. Ce serait à M. Duhaime de l'expliquer, mais sans doute que ces calculs sont là, sachant que c'est un coin qui est peut-être plus fertile.
Puis à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un règlement qui dit à ses députés, ben, à partir du moment où vous êtes élu à un certain endroit, vous devez absolument habiter cette circonscription-là?
Non, okay. Non, ça n'existe pas. On pourrait toujours faire le choix un jour de dire, bon, ben, pour être candidat dans une circonscription, vous devez résider là. Mais Yannick, Jean-François, on ferait le saut, là. Des 125
oui, hein?
Actuellement, là, qui habitent actuellement dans cette circonscription, faudrait faire l'exercice. Mais je suis pas certain. Est-ce que François Legault, dans l'Assomption, est-ce qu'il y avait un pied à terre dans l'Assomption?
Pauline Marois qui avait Charlevoix à l'époque.
Ouais. Elle avait présenté qu'elle avait un chalet.
Un chalet!
Mais quand les journalistes avaient...
Ça ressemblait à une chaîne.
Ouais, quand les journalistes avaient enquêté, il fallait au deuxième étage monter par une échelle, puis il n'y avait pas nécessairement de toilette. Et par la suite, il y a eu le scandale des toilettes à l'Assemblée nationale avec Pauline Marois. Fait qu'on comprendra que c'était pas trop son chalet.
Ouais, mais tu sais, parce que si on commençait à passer une législation disant vous devez habiter dans votre circonscription, ça veut dire en sorte que si tu avais, mettons, deux excellents futurs ministres des Finances ou deux excellentes personnes qui sont dans la même circonscription, ça veut dire qu'on se priverait peut-être de jeunes qualités. On sait jamais.
Faut pas être trop dur avec nos petits minous à l'Assemblée
nationale.
Mais
non, t'as l'air sceptique, Yannick. T'as l'air sceptique.
On n'est pas très sévère à leur égard, je peux te le dire. Marc-André Leclerc, c'est toujours un plaisir.
Hey, bonne semaine. Au revoir.
Salut, bonne semaine.
Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique et vice-président chez National, à qui on aimait bien jaser. Il me semble qu'on n'est pas sévère. Tu sais, je sais pas, quand tu es dans une circonscription, c'est les gens de ta circonscription qui te mettent au pouvoir. La première des choses, c'est que tu devrais habiter dans leur secteur puis les côtoyer, aller à l'épicerie, là, vivre un peu ce qu'ils vivent.
Ben, je suis d'accord. Faut que tu vives le terrain pour prendre les bonnes décisions.
Mais je suis trop méchant. Parce que Marc-André me regardait, mais il me regardait avec mépris en disant « Mais t'es tombé méchant! »
Non, t'es pas trop méchant. Moi, je pense la même chose. Tu sais, puis tantôt, je parlais de Charles Milliard. Je vais te donner un exemple aussi d'un ancien chroniqueur ici, Farnel Morisset. Pas grand-chose de gagner dans ta chereau, là. On y a promis, t'sais, on y a fait miroiter d'autres comtés, là. Notamment, je suis pas mal certain, Jean Talon. Là.
Ouais.
Puis il a dit « Non, moi j'habite dans Tachereau, je me présente dans Tachereau parce que c'est là que je vis puis c'est là que je connais les enjeux. » Alors moi j'ai énormément de respect pour ces gens-là qui choisissent pas de compter déjà gagnant pour eux puis qui disent « Ben non, moi je vais aller à la guerre dans ce comté-là. » Tu regardes dans Bellechasse, on parle d'Éric Duhaime qui se parachuterait là. Stéphanie Lachance n'a pas grand-chance de gagner, mais elle est députée de la CAQ, elle croit à la CAQ puis elle a dit « Ben je me représente. »
Ah non, faut pas être trop dur avec nos petits minous à l'Assemblée nationale. Et les obliger à habiter leur circonscription, c'est de la dictature,
ben
ça,
moi,
Marceau?
Moi, ça va de soi.
Ben oui, mais c'est ça, tu sais, moi, je me souviens du fameux chalet de Pauline Marois dans Charlevoix. Quand on avait fait le tour de la maison, c'était une catastrophe, là, c'était une shed.
Ben oui, la petite échelle en bois qu'il fallait que Pauline grogne pour aller à sa chambre.
Elle avait de la misère à se traîner. Ils nous disent que la PA me montre des escaliers de mer.
Ben non, c'est ça.
Max, sur la route.
C'est un dur retour à la réalité en ce lundi matin. Charest Ouest, auteur Robert Bourassa, la voie de gauche qui est bloquée en raison d'un accident. Les services d'urgence qui sont sur place, sinon l'heure de pointe est déjà bien entendue. Mais avant même 7 heures, en 4 sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est au rouge. Robert-Bourassa sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti également. Capitale-Ouest entre Seigneurial et Beau-Royal, un bon ralentissement. Et secteur des ponts, ça a commencé de bonne heure à matin, puis c'est pas pire jamais, particulièrement quand t'arrives par la 20 ouest avec un ralentissement qui commence un peu jusqu'à chemin des un peu après chemin des îles. Puis ça semble quasiment ressembler à un parking là, jusqu'à temps d'embarquer ces ponts. Prenez votre mal en patience.
Marceau le matin. Marceau le matin.